Nous allons commencer par la prière et Hélène, est-ce que tu peux te déranger? D'accord.
Merci Seigneur pour tout ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant. Merci d'imprégner nos cœurs de toutes ces paroles qui ont été dites, afin que nous puissions devenir des modèles et des lumières, que nous puissions agir selon ta volonté, comme tu le souhaites, Seigneur. Je te remets maintenant le culte à venir. Permets que les paroles dont Abdel va nous faire part puissent également se marquer nos cœurs et nous parler. Merci Seigneur pour ce moment. En ton Saint-Nom, Jésus-Christ.
Amen.
Amen. Le culte de ce matin, il y a eu tellement de partages autour de la résurrection, ne craignons rien parce que Dieu est avec nous, tellement de passages dans la Bible, que ce que je vais partager avec vous, c'est répétitif. Mais avec Dieu, c'est jamais une répétition, c'est une nourriture consistante, et que Dieu enlève tout ce qui peut venir de l'homme pour que nous puissions garder dans notre cœur ce qui vient de lui. Mais ça, je n'y peux rien. Dieu seul peut le faire, moi je ne peux pas le faire. Et en même temps, on a tellement partagé que je vais m'efforcer de ne pas me limiter au texte, puisque si je me limite au texte, nous mangerons ensemble ici. Vous voyez ? Donc, avec Christ, c'est une bonne école. Donc, à moi de m'adapter maintenant, puisque le Seigneur a déjà parlé. Alors, je vais essayer d'être, je dirais, concis, d'être, voilà, ne pas partir dans des choses que j'avais prévu de partager avec vous, puisque c'est déjà partagé. Donc, vous allez me pardonner si, au cas où, des fois, voilà, ça vous paraît incohérent, quoi que ce soit, mais, voilà, vous m'excuserez si je faillis dans ma mission. Le message d'aujourd'hui complète... Enfin, c'est le deuxième chapitre, la deuxième séance de ce qu'on a fait la dernière fois. Le titre, c'est « En Christ ». Donc, rappelons-nous que la fondation même, le fondement de la vie chrétienne, c'est notre union en Christ. C'est pour ça, le fait de dire « avec Christ », Dieu nous appelle à plus que ça. Avec Christ, ça reste quand même du domaine de la religion. Avec Christ, ça connote une certaine distance entre Dieu et moi. Avec. Je suis avec vous. Si je dis ça, vous êtes là dans la salle, moi je suis en face de vous, je suis avec vous. Vous voyez, on est un à côté de l'autre. La vie chrétienne, Dieu tel que... La bonne nouvelle, en fait, c'est que nous sommes en Christ. Et c'est très important, j'insiste là-dessus. Nous sommes en Christ. Attention. Nous ne connaissons plus Christ comme il y a plus de 2000 ans, de manière historique. D'ailleurs, lui-même, le Seigneur, a dit « Il vaut mieux pour vous que je monte au ciel parce que je vais vous envoyer le Saint-Esprit. » Et dans ce cas-là, nous allons passer d'une relation, distance, à une communion. Je suis en vous par l'Esprit Saint. Et c'est la nouvelle naissance. Donc le titre, c'est « En Christ ». Mais cette communion en Christ relève, je dirais, trois critères, trois réalités, trois vérités qui sont liées l'une à l'autre. On ne peut pas les séparer. Et la Bible nous dit que nous sommes unis à Christ, d'abord dans sa mort, dans sa résurrection et dans son ascension. Et souvent, quand on parle du Seigneur, en limitant mort, résurrection, mais aussi l'ascension. Mais aujourd'hui, ce sera la deuxième partie, en Christ, par la conformité à sa résurrection. La première, c'était par la conformité à sa mort. Aujourd'hui, par la conformité à sa résurrection, nous le terminerons la prochaine fois par la conformité à son ascension, parce que nous réalisons que quand le Seigneur est monté au ciel, il nous a fait monter avec lui, nous sommes assis à la droite du Père, etc. Deux passages dans la parole de Dieu. Le premier, dans Romains, chapitre 6, verset 5. Et nous avons lu tout à l'heure Romains 8. Et j'ai dit, c'est la suite. Voilà. Romains 6, verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Oui, le passage, il est clair. Si nous voulons vivre une vie de ressuscité, nous devons passer par, c'est paradoxal, une vie de mort. Nous devons passer par la mort pour avoir les fruits de la résurrection. Mais nous ne pouvons pas passer directement à la résurrection sans passer par la mort. Et souvent, malheureusement, dans l'histoire de l'Église, on a annoncé, on a prêché, on a cherché à vivre. Nous ne voulons pas de la mort, mais nous voulons de la résurrection. Nous voulons passer au dessert sans passer par l'entrée de plat de résistance. Nous voulons passer par ce qui plaît à la chair, à notre nature, mais quand on a payé le prix, on n'en veut pas. Le Seigneur le dit. Et justement, il faut rentrer par ce trou d'aiguille. Et c'est la mort. Et c'est seulement qui rentre par cette aiguille, ce trou d'aiguille, qui hériteront le royaume de Dieu, qui iront à la rencontre du Seigneur, qui formeront l'épouse. Soyons clairs là-dessus. Et c'est nous devons être alertés là-dessus. Si nous estimons que la vie chrétienne, c'est seulement vivre sa vie chrétienne avec les dons de l'Esprit, alléluia, et vivre sa vie comme on veut, etc., et mélanger ce compromis entre notre nature, le monde et Dieu, ne ferons pas partie de l'épouse, de l'Église, qui ira à la rencontre du Seigneur. C'est clair, net, précis. Le deuxième passage, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 11. Car, 2 Corinthiens 4, 11. Car nous qui vivons, nous sommes toujours livrés à la mort pour l'amour de Jésus, afin que la vie aussi de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle. Le message est clair aussi. Pour que la vie de Jésus soit manifestée en nous, Dieu nous soumet à la mort. Attention, quand il parle de mort, pas la mort physique, pas on ne va pas être cloué sur la croix, quoique il y en a qui sont persécutés, les chrétiens. Mais c'est-à-dire, Dieu nous fait vivre dans notre vie depuis des années, etc., tellement d'épreuves. Le but, ce n'est pas de nous faire souffrir, ce n'est pas une finalité, ça. Mais c'est de nous détacher de nous-mêmes. À un certain moment, à travers les épreuves, la première, on ne la comprend pas, la deuxième, on ne la comprend pas, peut-être la troisième, la quatrième, on comprend, et on s'arrête et on dit, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ? Tu ne veux pas me détruire, mais tu veux me mener de meilleur de moi-même. Tu veux en fait me détacher de moi-même. C'est-à-dire que tu veux me faire vivre ce brisement qui ouvre la porte à la résurrection. » Et c'est là, les yeux s'ouvrent, comme ces personnes qui étaient avec le Seigneur, qui ont pris le pain, d'un seul, leurs yeux s'ouvrent. Et d'un seul, on dit, « Et maintenant, je te découvre, Seigneur. » La résurrection dont il s'agit aujourd'hui, je ne parle pas de la résurrection des corps. C'est la résurrection intérieure dans chacun de nous. C'est de ça qu'il s'agit. La résurrection du corps, ce n'est que la manifestation finale d'une résurrection progressive qui se fait en nous, de notre vivant, ici sur terre, dans notre être intérieur. C'est-à-dire que la résurrection finale n'est que le résultat, la manifestation d'une résurrection qui se fait avant. S'il n'y a pas de résurrection avant en nous, cette résurrection finale n'a aucun sens, puisque c'est la manifestation de cette succession de résurrections en nous. D'ailleurs, le Père, certes, dans la Bible, nous dit que Jésus est le Fils de Dieu. Mais cette définition de Fils de Dieu prend encore plus de sens que le Seigneur est ressuscité. Dans Romains, chapitre 1, versets 1 à 4. Romains, il faut que je le trouve, 1 à 4. Romains 1, versets 1 à 4. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté. Le Fils de Dieu est déclaré, solennellement Fils de Dieu d'une manière représentative, d'une manière en fait universelle, après la résurrection. Bien que c'est le Fils de Dieu, il l'a dit plusieurs fois, mais ça a plus de sens. On va comprendre pourquoi. Ni sa naissance à Bethléem, Jésus, ni sa mort à la croix, ne sont l'occasion d'une pareille déclaration du ciel. La chose n'en était pas moins vraie, nous le savons. Mais c'est pour le jour de la résurrection que la déclaration formelle a été réservée. C'est quand il a ressuscité des morts, il a annoncé devant tout le monde, celui-là est mon fils bien-aimé. Pourquoi ? Parce qu'il va devenir aussi une résurrection dans tous les chrétiens. Dans le psaume 2 que nous avons lu tout à l'heure, Dieu déclare, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Le fils n'attend qu'une chose, c'est qu'il soit engendré en nous. Mettons de côté l'aspect historique de Jésus. Ça, c'est les historiens de la religion peuvent le faire. La vie chrétienne, c'est concret, c'est pratique, c'est simple. Jésus est ressuscité, et bien cette réalité-là, Dieu veut qu'elle soit concrète dans nos vies, notre vie ici, maintenant. Est-ce que Jésus est ressuscité en nous? Il peut le devenir si nous acceptons aussi qu'il le fasse passer par la mort, sa mort, pas de la même façon, mais mourir à nos priorités, mourir à nos convictions, mourir à nos certitudes. On est tellement convaincus. Mourir à nous-mêmes, tout simplement. Et le Seigneur, en ressuscitant, il a vaincu, chose que nous ne pouvons pas faire nous, il a vaincu la mort physique. Ça veut dire que la mort physique, elle devient, au lieu de devenir quelque chose qui nous fait souffrir, on a peur. On va disparaître. On va laisser nos proches, nos enfants, je ne sais pas. Ça, c'est la tyrannie de la chair, ça. Et c'est naturel, nous sommes nés avec comme ça. Donc on va pas, je ne suis pas en train de vous dire, c'est anormal. C'est normal. La nature humaine, elle n'aime pas la mort, puisque c'est sa fin. Vous imaginez? Notre chair, elle ne va pas quand même dire je suis heureuse parce que je vais m'éliminer. Mais c'est normal. Mais Dieu, par la mort de Jésus à la croix et sa résurrection, il a transformé cette mort en un début d'autre chose. Un pont, un tremplin vers l'éternité. Ça, c'est la chose que le Seigneur apporte à la croix. Mais ça, on ne peut pas le fabriquer. C'est sa vérité révélée en nous à travers un cheminement dans notre vie. Plus nous avançons, plus nous avons cette joie de se préparer pour partir. L'apôtre Paul disait lui-même, si ça dépendait que de moi, je voudrais partir aujourd'hui. Oui, il a réalisé au fond de lui que la mort physique, c'est ce qui est bien qui peut arriver pour lui, puisque c'est l'éternité qui s'ouvre à lui. Mais la nature humaine n'en veut pas. C'est pour ça que la nature humaine doit passer par ce brisement. C'est-à-dire elle se met à la disposition de Dieu, et quand Dieu lui dit, maintenant tu vas partir, elle dit, Seigneur, si tu veux que je parte, eh bien je pars. Ça c'est la mort, ça c'est l'âme régénérée. L'âme qui est passée par la croix. Au point que les martyrs, rappelez-vous, quand on est en train de les tuer lapidés, ils regardaient le ciel ouvert, et disaient à Dieu, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils se réjouissaient de partir. Oui, nous ne sommes pas à ce stade-là. Et pourtant, dans notre cheminement, Dieu, petit à petit, nous emmène vers ça. C'est ce qu'on appelle le brisement, porter sa croix, la mort, pour hériter de cette résurrection. Le Seigneur a vaincu le monde aussi. Ça veut dire qu'il ne nous appelle pas à aller nous enfermer dans un bâtiment, dans une communauté, dans un couvent, je ne sais quoi, pas du tout. Il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est-à-dire que, tel que vous êtes transformé, je vous envoie comme des lumières dans le monde, vous êtes un témoignage dans un monde qui ne veut pas de vous. Oui. Ça ne peut être possible que par une puissance de mort et de résurrection. La mort de moi, mais la résurrection, c'est la place de Christ qui va prendre la place en moi, et petit à petit, d'une manière progressive, c'est encore une fois, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Même l'apôtre Paul, il a fallu au moins 3 ans entre ce qu'il a reçu sur la route et son ministère. Et d'un seul coup, c'est le Seigneur qui agit à travers nous, dans la fournaise, dans un monde qui ne veut pas de lui. Le Seigneur a vaincu le péché. Troisième réalité sur la croix. C'est-à-dire en fait que le péché, il nous a crucifiés avec lui, mais il n'a pas vaincu que le péché, le pécheur aussi. C'est-à-dire quand il était sur la croix, c'est ma nature. Même si je suis là maintenant au 21e siècle, et ben quand il était sur la croix, j'étais en lui. D'une manière spirituelle, bien entendu. Il m'a porté, c'est-à-dire ma nature telle que je suis né avec, avec ma culture, mon éducation, etc. Il les a brisés, il l'a mis dans le sol comme un grain de blé, mais pas pour le faire détruire, non. Et après il dit, maintenant progressivement, ensemble, nous allons restaurer cette nature. C'est ça, la résurrection. Le grain de blé qui rentre dans le sol, on a l'impression qu'il meurt. Oui, il meurt. Mais d'un seul coup, avec le temps, en l'arrosant, il se démantèle. Vous voyez, ça c'est le démantèlement, la mort à soi-même. Et petit à petit, il commence à ressortir. Une épie avec plein de graines. Ça, c'est la résurrection. Il fallait l'enterrer avant. Et la quatrième réalité de la croix, c'est qu'il a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il a vaincu les puissances célestes, le diable et toute sa légion. Il les a vaincus. Mais comment il les a vaincus? C'est qu'il s'est identifié à la mort. Il a dit, bah écoutez, la mort, qui est d'ailleurs synonyme, on dit que le diable, c'est le seigneur de la mort. Eh bien, il est devenu mort à lui-même. Mais s'il était resté mort, le diable aurait vaincu. Il aurait utilisé la mort comme un tremplin pour avoir tout le monde. Alors, comme ça, vous voyez que vous allez finir, vous allez mourir. Oui. Mais non, il s'est identifié. Il est allé dans son jeu, c'est quelque part. Il est devenu mort lui-même. Il est rentré dans l'enfer de la mort. Et parce qu'il est allé jusque pour ce point-là, lui qui était la vie, qui était Dieu lui-même, ne peut pas rester dans la mort. Dieu l'a ressuscité. Et c'est là que le diable s'est rendu compte. Il est vaincu. Il a dit maintenant, alors là, tout ce que j'avais comme espoir, maintenant ça disparaît. Il est ressuscité. C'est pour ça qu'il fait tout pour nous faire dire. Soit il nous fait oublier la mort, c'est ce qu'il fait avec les religions, dans la religion la mienne, l'islam. Ne croyez pas en la mort de Jésus, hein. Il n'est pas mort. Hein. Oui, parce qu'il sait très bien qu'il s'est identifié à la mort. Il est allé dans son jeu, mais il a vaincu la mort ressuscité, c'est-à-dire en fait, le diable n'a plus la main sur ceux qui croient en Jésus, parce que ceux qui croient en Jésus passent par la mort, mais ils ont la vie. Et la vie, c'est la victoire contre le diable et contre les puissances célestes. Vous voyez la réalité de la croix. Quatre réalités. Ces quatre réalités sont notre réalité. Et nous devons le croire, et c'est pour ça, à chaque fois que nous avons l'occasion de prier le Seigneur, de prier. Faites de cette déclaration une déclaration solennelle presque automatique. À chaque fois que vous priez, à chaque fois que nous prions, commencez par dire, Seigneur, merci, tu as tout accompli, tu as vaincu l'ennemi de nos âmes, et aujourd'hui, au nom du Seigneur Jésus-Christ, par la foi, je ne comprends pas, et bien au nom du Seigneur Jésus-Christ, le diable, je t'annonce que tu es vaincu. Nous ne le voyons pas. Lui, il nous entoure, c'est tout. Et bien, rappelons-lui, comme ce matin, diable, le Satan, au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu es vaincu. Et tu es vaincu par le Seigneur Jésus-Christ. Et il a fait ça. Il nous a fait participer à cette réalité-là dans une communion. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons le privilège de te l'annoncer. Ce matin et tous les jours. Le principe de mort et de résurrection, c'est quelque chose d'indispensable dans la vie du chrétien. Une église qui ne prêche pas la croix, je vais être gentil, c'est qu'une église à côté de la vérité. Oui, parce que sinon, si j'utilise mes propres mots, je vais être plus difficile. Voilà. Une église qui ne prêche pas la croix faillit à sa responsabilité. Si une église existe, parce que Christ existe. Christ doit être la tête de l'église. Nous sommes sans corps. Et je suis responsable de vous comme vous êtes responsable de moi. Nous sommes dans le même corps. Si vous n'êtes pas bien, je ne suis pas bien. Et si vous ne sommes pas bien, Christ qui est la tête n'est pas bien non plus. La souffrance, elle passe par la tête. Et Christ est la tête et le corps en même temps. Le jour où nous réaliserons que ma marche avec le Seigneur te touche dans ta marche avec le Seigneur, si je ne suis pas droit dans ma vie, je participe à votre souffrance. Le jour que l'on réalisera ça, on verra ce que c'est que l'Église. L'Église est le corps du Seigneur. qui dit le corps, nous sommes les mains, les bras, la tête. Si le bras, si je coupe mon doigt, ben tout le corps souffre. Donc si dans ma marche avec le Seigneur, je ne suis pas droit, je ne peux pas me forcer à être droit, mais au moins devant le Seigneur, quand je pêche, quand je ne suis pas bien, je le reconnais devant lui et je lui demande son secours, c'est tout ce qu'on peut faire. Je peux me forcer, mais ça revient. Mais si je reconnais devant le Seigneur que je ne vais pas dans ma vie, il y a quelque chose qui ne va pas, Seigneur, viens à mon secours, je te prie de me pardonner, je suis dans une situation de repentance. Et bien si je ne fais pas, si je ne suis pas dans cette attitude-là, si ma conscience ne me condamne pas, c'est grave. Si ma conscience ne me condamne pas, si ma conscience me dit, oh c'est pas grave ce que tu veux. Là, je fais souffrir tout le corps, je suis responsable de la souffrance de mon frère, de ma sœur et du Seigneur. C'est très important ça. On n'ose pas le dire. On ne le dit pas. Mon frère, ce n'est pas spécialement celui qui est là, à l'église, là. Même celui que je ne vois pas. Bernard est mon frère. Son épouse est ma sœur. Yves, Nathalie, tout le monde, tout cela, c'est mes frères et sœurs. Si j'ai une pensée pour eux, et je ne prie pas pour eux, quel est le rôle de l'église? Je dis bien prier, penser pour eux, être là. Nous devons remarquer que ce qui est à son origine en Dieu, qui vient de Dieu, ce qui doit son existence à une action naturelle de Dieu, est appelé à passer par la mort afin de recevoir par sa résurrection le sceau suprême de l'acceptation et de la bénédiction. Il n'y a pas de vie chrétienne sans mort qui donne la place à la résurrection et l'ascension, etc. Nous devons porter notre croix. Nous devons être dans une attitude de repentance. Si j'ai commis un péché dans ma vie, personne ne le sait, on est d'accord. Mais ma responsabilité, moi, vis-à-vis de Dieu. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller dans le secret dans ma chambre ou tout simplement être présent physiquement et dans ma tête, dans le silence, en train de confesser devant Dieu? Viens à mon secours. J'ai failli. J'ai honte. Parce que j'ai ma responsabilité incombe le Seigneur et mes frères et sœurs aussi, du Creusot et d'ailleurs. Donc, l'avancement du royaume de Dieu. Donc, la formation de l'Église qui va aller à la rencontre du Seigneur. C'est cela la repentance. C'est ce que la Bible appelle la sainte tristesse. Je dois tellement faire partie de cette Église. J'ai tellement envie de faire partie de cette Église qui va aller à la rencontre du Seigneur que Dieu est en train de préparer que si je faillis, par ma nature, c'est normal, c'est ma nature humaine, et bien au moins je le confesse et je demande le secours de Dieu. Et par son esprit, petit à petit, il nous mène vers le chemin de la délivrance. Où, quand, comment, Dieu seul le sait. C'est un processus que Dieu a choisi depuis la Genèse, depuis la création. Et tout l'Ancien Testament, on trouve ce principe de mort et de résurrection. Isaac, vous vous rappelez ? Donc même lui, il devait passer par une mort, presque il était mort, presque j'allais dire, parce que quand son père a levé la main avec le couteau, pour moi il était déjà mort. Hein. Pour lui, ça y est, c'est fini pour moi. Et c'est dans cette attitude d'abandon, au point de dire ça y est, je suis mort, que la main s'est arrêtée. Et maintenant, il a dit, maintenant c'est un agneau à la place. Je ne vous imagine pas comment il était Isaac après. Mettez-nous à sa place, il savait déjà attaché. Il va aller mourir. Plus d'espoir. Pour moi, il est mort déjà. Et d'un seul coup, Dieu intervient. Non, tu n'es pas mort. Tu es ressuscité. Il n'est plus le même. C'est cela le principe de mort et de résurrection. C'est un enseignement. C'était un enseignement aussi pour Abraham. Donc, si je dois définir la résurrection, c'est quoi la résurrection? C'est le pouvoir d'avoir l'ascendant sur la mort. C'est une vie qui ne connaît pas ce qu'est la mort. C'est une vie indestructible. La résurrection dont nous parlons, c'est la résurrection de Christ et notre incorporation à sa résurrection. Par notre nouvelle naissance, notre naissance d'en haut, nous devenons participants à la vie de Dieu. 2 Pierre, chapitre 1, verset 4. Ce que les Écritures appellent la vie éternelle appartient exclusivement à ceux qui sont nés de nouveau. Aucun homme ne le possède par nature. Ça vient de Dieu. Tout au long de notre marche avec le Seigneur, à travers notre expérience spirituelle, la vie éternelle en nous a pour but l'accroissement et le développement de notre vie chrétienne. Et ce développement s'opère essentiellement, comme nous l'avons vu, par une succession des agissements de Dieu en nous, par lesquels nous passons comme par des cycles de mort et de résurrection. C'est des épreuves. C'est une vérité extrêmement importante à saisir, car elle explique tout. Je vous invite à lire les écrits dont je suis très inspiré. Des écrits qui m'ont parlé, que Dieu a permis sur mon cheminement de les lire. C'est les écrits de ces hommes du 19e, 18e, 20e siècle, début de 20e siècle. Comme celui dont j'en parle souvent, Théodore Austin Sparks, qui a vécu le réveil au pays de Galles. Ces chrétiens qui ont vécu dans l'ombre, dans la souffrance. Ils ont tellement vécu une expérience dans leur chair, dans leur vie, qu'ils sont tellement transformés. Mais il y en a aussi au XXIe siècle. Et que ce n'est plus eux qui vivent, c'est Christ qui vit en eux. Mais souvent ces gens-là, c'est le point commun, sont rejetés par leur propre milieu. Quand tant qu'ils sont dans le système, ils sont acceptés. Ils peuvent prêcher devant la foule, pas de problème. Ils étaient responsables d'église, pasteurs, tout ce qu'on veut. Mais quand Dieu se révèle en eux, il leur dit, mais écoutez, toute votre vie jusque-là, ça venait de vous, mais je n'en veux pas. Et pourtant, ils étaient des chrétiens, fervents, théologiens, tout ce qu'on veut. Mais quand Dieu s'est révélé en eux, ils se sont rendus compte, comme l'apôtre Paul, je regarde ma vie passée, c'est comme de la boue. Et d'un seul coup, ils font demi-tour, ils disent, Seigneur, tout ce que j'ai fait jusque maintenant, c'était mes propres forces, ma force naturelle. Mais toi, tu m'appelles tout simplement un brisement. C'est que après, ça vient de toi et tu me transformes dans cette communion avec toi. Et quand ils retournent dans leur système, regardez les témoignages. À 99%, si ce n'est pas 100%, la même chose. Ils leur disent, mais écoutez, jusqu'à maintenant, c'est vrai ce que je vous disais. C'était vrai ce que je vous dis. C'est vrai. Mais seulement, ça venait de l'homme. Dieu, maintenant, s'est révélé en moi et je me rends compte, en fait, que tout ce que j'ai fait naturellement, Dieu n'en veut pas. Il veut que je sois transformé. Il met les épreuves. Dans la première épreuve, c'est celle-là. Je me suis en train de me confesser devant vous. Et souvent, ces gens sont rejetés par leur système. Non, on n'en veut pas de vous, de cette nouvelle doctrine. C'était bien comme avant. Parce que la deuxième, elle les condamne. Elle condamne l'humanité entière pour dire c'est seulement de Dieu que les choses doivent venir, mais pas de nous-mêmes. Vous voyez ? C'est un prix à payer. Par le propre système. Bien entendu, le monde aussi s'ajoute pour leur faire payer le prix. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Donc la résurrection, c'est Christ. Nous voulons vivre la résurrection, c'est qu'on vit en communion avec lui. Et en même temps, il nous dit, laissez-moi vous faire entrer dans cette mort, dans ce brisement. Dès que vous acceptez, je vais vous accompagner, je vais être avec vous. Nous allons traverser les épreuves ensemble, mais plus vous allez être transformés, dans la fournaise, je vais vous accompagner avec la paix. Vous ne pouvez pas la fabriquer, moi je serai avec vous, vous n'allez rien comprendre, vous êtes en train de souffrir normalement, et pourtant vous avez la paix en même temps, c'est paradoxal. Et l'issue, c'est une nouvelle vie. D'un seul coup, on voit les choses changer, sans le rendre compte, souvent sans le rendre compte. Ce qui était impossible pour nous avant, d'un seul coup, on les voit s'accomplir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce n'est plus nous qui maîtrisons les choses, c'est Dieu lui-même. Parce qu'il nous a passé par la mort. Christ en nous, Christ en vous, Colossiens chapitre 1, verset 27. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Derrière la mort, aussi, il ne faut pas oublier, quand on parle de mort, on se limite juste à la mort. Il y a celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Si on se limite seulement à la mort, à la souffrance, etc., sans issue, ça, c'est le diable. S'il y a une souffrance, parce qu'il y a d'espérance, il y a une résurrection. Si Dieu nous passe par les épreuves, c'est pour quelque chose. Le diable ne veut pas ce quelque chose. Il veut s'arrêter juste à la souffrance. Et souvent, on voit des gens vont jusqu'au suicide. Ça, c'est le diable. Parce qu'il nous arrête juste à la mort. Mais la croix, c'est une pièce de monnaie, de face. La mort, résurrection. S'il y a une souffrance, pourquoi Seigneur? Qu'est-ce que j'attends? Dans l'espérance, nous attendons quelque chose de meilleur. À la croix, Christ a pris sur lui toute la hiérarchie des puissances du mal. Il se laissa vaincre par elle et entraîner comme une victime, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans les abîmes les plus profonds de leur sinistre domaine. Mais parce qu'il s'est identifié à leur mort, Dieu l'a ressuscité. Il est sorti vainqueur. Je termine. Il y a dans la foi chrétienne un principe indispensable. La croix au centre, Christ au centre, tout ce qui est autour, c'est de la foutaise. Ça peut plaire à la nature humaine, ça peut plaire au monde, jusqu'au compromis entre le monde et l'Église. Mettons de côté la croix, mettons de côté Christ, mais tout le reste, on se met d'accord. Les communismes, j'ai connu, il y avait l'islam aussi dedans. Mettons de côté la croix, on me dit ce que du reste. Mais si on enlève la croix, il n'y a plus rien. Dans notre communion, mes frères et sœurs, il y a un instrument. Et je suis le premier, j'en discutais encore dernièrement. Nous le négligeons. On le néglige. Voilà, ouf, je suis sauvé. On le néglige. Parce que la nature humaine n'est pas habituée à ça. Nous trouvons le temps d'aller faire plein de choses, mais la prière. Hein? La nature humaine, elle n'en veut pas. La nature humaine, elle veut regarder Netflix. Elle veut regarder la Ligue des Champions. Plein de trucs, plein de choses. Mais ça, la nature humaine, on sent bien de faire ça. Mais quand on dit, il faut prier. Oh. Je dis toujours à mes enfants, c'est marrant, nous trouvons le temps d'aller aux toilettes. Mais quant à la prière, non. Et bien la prière, c'est l'instrument de communion dans l'Église, entre les frères et sœurs. Ce que je vois, ce que je ne vois pas. Et quand on est dans la prière, c'est un signe de résurrection. Vous voulez avoir une preuve que nous sommes dans la résurrection ou pas? Regardez si nous prions. Si nous ne prions pas, ce n'est pas possible. Puisque la prière, c'est un instrument qui accompagne la résurrection. S'il n'y a pas de prière, ben, il y a problème là. Et bien, quand je n'arrive pas à prier, je demande à la Seigneur. Seigneur, je n'arrive pas à te prier. C'est ça le Seigneur qui est avec nous. Il dit, mais au moins, reconnaissez, venez, montrez vos faiblesses. Dites-moi, Seigneur, je n'arrive pas à prier. Et là, je vais vous aider à commencer à prier. C'est cette communion-là que nous sommes appelés dans la prière. La prière nous met en contact avec les extrémités de la terre, car nous réalisons concrètement au fond de nous-mêmes que nous sommes concrètement un seul corps. Ce que nous sommes et ce que nous faisons a un sens universel et éternel. Les limitations disparaissent avec la prière. Il n'y a plus de limitation de temps ou d'espace. Nous devons veiller à la bonne santé du corps du Seigneur, c'est-à-dire son Église corporelle, les chrétiens d'hier, d'aujourd'hui, du Creusot et d'ailleurs. Nous avons affaire à une vie qui est celle de tout le corps, c'est-à-dire à un organisme corporatif qui forme un tout. Un membre individuel ne peut posséder cette vie qu'en rapport avec l'ensemble, avec Christ en tant que corps et en tant que tête à la fois. C'est ce que nous sommes, une Église à l'échelle locale. Nous faisons partie de l'Église à l'échelle universelle, à l'échelle spirituelle. Nous avons la responsabilité des uns des autres. La communion fraternelle, c'est cela. Nous sommes appelés à être identifiés avec lui dans la ressemblance de sa résurrection. Romains chapitre 6, verset 5. Que Dieu nous aide à œuvrer dans ce sens, comme le dit si bien l'apôtre Paul aux Philippiens, dans Philippiens 3, 10. Pour le connaître lui et la puissance de sa résurrection. Amen.